Bonjour à tous. J'aimerais bien évidemment remercier les organisateurs de ces journées et puis un remerciement particulier à Corinne Brun, qui est bibliothécaire ici à la Cité de la Musique et qui a largement contribué à cette organisation. Et c'est d'ailleurs à l'invitation de Corinne que je vais présenter un certain nombre de portails musicaux. Vous en connaissez certains, mais certains sont vraiment très nouveaux et même en cours de réalisation. Alors, il s'agit de 4 portails, tous dédiés à la musique. Le premier, c'est le portail de la médiathèque de la Cité de la Musique. Comme j'ai déjà fait des présentations de ce portail, je crois d'ailleurs, à des rencontres nationales de la CIM, je vais en dire juste deux mots, mais je parlerai plutôt de l'élargissement du périmètre de ses utilisateurs au travers du réseau extranet. Ensuite, je vais vous présenter avec Rodolphe Bailly, qui est le responsable informatique de la médiathèque, mais aussi de tous ses projets, 3 portails thématiques. Il y en a 2 que la Cité de la Musique a initiés et coordonnés. Donc, il s'agit du portail des orchestres français, en collaboration avec l'Association française des orchestres, et bien sûr la participation des orchestres permanents en France. Le portail des spectacles du monde, qui est donc coordonné par la Cité de la Musique en collaboration avec plusieurs institutions, dont les grandes institutions de diffusion musicale parisienne, Maison des Cultures du Monde, Musée du Quai Branly et Théâtre de la Ville, mais là il s'agit du domaine des traditions du monde, donc musique traditionnelle. Et enfin, le portail de la musique contemporaine, qui est dirigé par le CDMC, réalisé par l'IRCAM, en relation avec beaucoup d'institutions. Je vous ai cité les principales ici, nous-mêmes, hein, Cité de la Musique, mais bien entendu, le Conservatoire national de Paris, de Lyon, la médiathèque musicale Mahler, l'ensemble intercontemporain et bien d'autres. Alors, on va commencer par le portail de la médiathèque. Ah oui, excusez-moi, non. Des généralités sur tous ces portails thématiques. Comme l'a dit Thibaut de Camas, en fait, ici à la Cité, on a créé le portail de la médiathèque de la Cité en 2005. Au travers de cette expérience qui nous a permis de nous familiariser avec les techniques de numérisation, mise en ligne de la musique, dossiers juridiques, etc., grâce à toute cette expérience, on a décidé de travailler avec d'autres institutions sur des portails thématiques. Donc, portail thématique, ça signifie pour moi qu'on va construire des portails, mais sur des répertoires particuliers. Par exemple, le portail des orchestres français, c'est le domaine de la musique symphonique. Il y a aussi, bien sûr, de la musique de chambre, etc., mais c'est de façon privilégiée la musique symphonique. Le portail des spectacles du monde, là, on est sur la représentation de ce qui se fait dans les maisons de spectacles vivants en France en diffusion des musiques traditionnelles. Et enfin, le portail de la musique contemporaine, comme son nom l'indique, on est plutôt sur des musiques d'après 1945. Alors, tous ces projets ont la même vocation. Il s'agit d'agréger des métadonnées, non pas des contenus, mais des métadonnées, hein, j'insiste, parce que c'est vraiment la dimension essentielle. C'est un petit peu comme la Bibliothèque numérique européenne, si vous voulez. On agrège des métadonnées de façon, premièrement, à créer un accès qui va fédérer l'ensemble des métadonnées sur les ressources du domaine. Ça permet de créer une vision globale du domaine et ça permet surtout de faciliter le repérage des ressources pour les internautes. Ça veut dire, par exemple, qu'un internaute qui est à la recherche de ressources sur les musiques traditionnelles, au lieu d'abord de se demander où il va les trouver, et au lieu peut-être d'aller chercher sur le portail de la Maison des Cultures du Monde ou sur le portail du Théâtre de la Ville, qui d'ailleurs n'existait pas avant. Vous êtes sûr, là, qu'on m'entend ? Vous m'entendez ? Oui. Donc, au lieu d'aller, si vous voulez, faire des recherches sur des sites éparpillés, fragmentés, l'idée, c'est de créer un accès unique à un ensemble de ressources le plus large possible. Donc, ces portails ont aussi pour vocation de s'élargir au maximum en faisant entrer de plus en plus de partenaires. Alors, pour construire de tels portails, il faut créer un réseau institutionnel, c'est-à-dire qu'il faut se rassembler entre institutions travaillant sur un même thème. Par exemple, le portail des spectacles du monde, comme on va le voir, a réuni des institutions qui travaillaient premièrement dans le spectacle vivant, puisque c'était la décision du portail, c'était de réunir des ressources concernant le spectacle vivant, et des institutions qui voulaient bien travailler ensemble. Donc tout ça, ça va sans dire, puisque vous, bibliothécaires, vous êtes vraiment très habitués à travailler tous ensemble. Il y a beaucoup de groupes de travail partout, on l'a vu hier. Il y a beaucoup d'associations. Vous êtes vraiment, je crois, dans cette dynamique de réseau et de groupe de travail. Ça n'est pas forcément le cas pour les institutions du spectacle vivant, qui travaillent au fond plutôt à la base dans un esprit de concurrence ou en tous les cas de répartition de segments dans le marché du spectacle vivant. Donc ça n'est pas forcément naturel et c'est quelque chose qu'il faut créer quand on se projette donc dans un projet collectif comme ces portails. Alors il y a eu une aide considérable de la part de l'État sans l'aide de la mission recherche et technologie qui fait ses appels à projets annuels qui sont les plans de numérisation, nous n'aurions pas pu faire ce travail. Hein. Nous avons bénéficié d'un financement en 2007, 2008, 2009 et ça a été quand même un élément déclencheur et très important. Ça n'est pas le seul moyen qui nous a été attribué, puisqu'au sein même des institutions qui forment ces réseaux, il faut bien entendu trouver du temps de travail. Et donc, après ces généralités sur les portails thématiques, je reviens au premier portail que nous avons créé, qui nous a donc permis de nous frotter à la mise en ligne de musique sur les réseaux. Donc, c'est le portail de la médiathèque de la musique, de la Cité de la Musique, qui est en fait au départ conçu comme un outil éducatif pour le public mélomane. Pourquoi ? Parce qu'ici on reçoit beaucoup de mélomanes, de personnes qui viennent aux concerts, aux expositions du musée. Et donc ce portail est en lien étroit avec les salles de concert de la Cité et d'ailleurs la salle Pleyel, puisque la salle Pleyel est une filiale de la Cité, et aussi un lien étroit avec le musée, donc avec une dimension patrimoniale. Alors, ça peut vous sembler un cas original dans le monde des bibliothèques, puisque je crois qu'on est peut-être unique en France, une bibliothèque qui a ce point lié et qui travaille en synergie avec des salles de concert et un musée. Mais je pense qu'en région, on pourrait tout à fait trouver des cas similaires, ou en tous les cas des transpositions, où la bibliothèque jouerait le rôle de la mémoire d'une institution de spectacle vivant et d'une mise en valeur, par exemple, de collections patrimoniales. Donc sur ce portail, vous allez vite le voir, il y a tous les concerts enregistrés dans nos salles, plus aujourd'hui des concerts live que nous conservons dans le fond des archives de la médiathèque, et des outils éducatifs et culturels. Donc on va tout de suite vous donner un exemple. Donc là, par exemple, on ne fait pas la recherche devant vous, mais on a demandé au portail de nous trouver un concert avec le Chamber Orchestra of Europe et Hélène Grimaud. Donc là, il s'agit d'un concert très récent. Et vous voyez l'archive audiovisuelle s'afficher dans un player. Donc on est au sein du portail. Hélène Grimaud, Concerto de Ravel. Donc ça, justement, c'est une nouvelle démarche de la Cité. Ce concert était enregistré, mais diffusé en live sur le site pendant le concert. Il est accessible ensuite pendant un mois en intégralité sur le site et ensuite il est versé dans le fonds des archives de la médiathèque. Donc on a beaucoup de concerts comme ça, on en a un peu moins en vidéo parce que ça coûte plus cher, mais il y a aujourd'hui une collection d'un millier de concerts audio et vidéo. Donc maintenant l'idée c'est de valoriser cette collection avec des outils éducatifs. Donc je vous montre un premier exemple d'outils éducatifs. Voilà, par exemple, dans la série des concerts éducatifs, on a des concerts le samedi matin pour les familles et les enfants. Nous mettons en ligne un petit dossier préparatoire pour les familles et les enseignants. Donc vous voyez, bon, c'est très simple, ce sont des biographies, des compositeurs, des textes sur les œuvres, etc. Ce dossier vous permet d'avoir beaucoup de documentation autour des concerts. Là, c'est un dossier qui prépare à l'écoute de concerts et qu'on va bien sûr pouvoir consulter après le concert. Un autre type d'outil, c'est le guide d'écoute. Donc là, il s'agit d'outils plus sophistiqués où les techniques multimédia sont vraiment... Il faudrait qu'on ait du son. On va peut-être recommencer. Là, vous avez une œuvre orchestrale, comme vous voyez, pour Yolande Beethoven, qui est donc enregistrée dans la salle. Et ensuite, l'idée est de fabriquer cet outil qui poète met en lien des commentaires avec la musique, mais l'idée c'est de synchroniser le commentaire, la partition, des éléments visuels, des annotations graphiques sur la partition, donc de synchroniser tout ça de manière à guider l'écoute pas à pas. Là on est en train d'écouter d'une seule traite, mais on pourrait tout à fait, si vous voulez, suivre le commentaire ici en bas à gauche, et puis grâce au lien, vous voyez, trouver des explications, donc des commentaires sur ce qu'on est en train d'écouter. Donc voici deux exemples très rapidement d'outils éducatifs en lien avec les concerts enregistrés qui permettent de créer des nouvelles relations avec notre public sur Internet, des relations en fait éducatives au sens très large. Voilà. Donc maintenant, évidemment, tout ça c'est de la musique sur Internet. Quels sont les droits? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le plus grand nombre de personnes profite de ces ressources? Donc là, je vous raconte ce qui s'est passé à la Cité de la Musique avec ce que disait Thibaut de Camas, c'est-à-dire des négociations contractuelles avec les sociétés de gestion collective, SACEM, SESAM, SPEDIDAM, sont les principales. Voilà les accords en place. Bien entendu, le minimum, c'était de pouvoir diffuser les musiques qu'on enregistre dans nos salles ici à la Cité de la Musique. Donc c'est le cas, on peut le faire. On peut évidemment diffuser toutes ces musiques dans la médiathèque que certains ont visité en accès intégral. L'accès est gratuit pour le lecteur, mais la Cité de la Musique rémunère les ayants droit via les sociétés de gestion collective. Il faut le souligner, ça n'est pas un acte gratuit pour tous. On rémunère les ayants droit, ce qui est tout à fait naturel. Et c'est la Cité de la Musique qui le fait, grâce bien entendu aussi à une subvention de l'État, puisque la Cité de la Musique est subventionnée à hauteur de 75 à 80% par l'État. Donc service gratuit pour l'utilisateur. Maintenant, il y a un deuxième périmètre de diffusion, c'est justement le réseau extranet. Alors c'est tout simplement de l'Internet sécurisé. La sécurisation, c'est les numéros IP des postes qui sont dans ces bibliothèques. Et là, on a demandé aux sociétés de gestion collective si on pouvait donner un accès intégral à toutes nos ressources. Oui, alors pour certaines sociétés, c'est à titre gratuit, pour d'autres, c'est à titre payant. Et le troisième périmètre, c'est l'Internet classique. Tout ça, vous pouvez regarder chez vous le portail, mais vous aurez un accès restreint aux concerts, comme le disait Thibault. Vous avez accès à des extraits courts de tous nos concerts, ce qui n'est pas négligeable non plus, puisque vous avez un millier de concerts avec des extraits de 3 minutes. Et pour cela, nous payons également. Donc l'accès est gratuit pour l'internaute, mais la Cité verse des droits via les sociétés de gestion collective. L'extranet n'est pas gratuit pour la bonne raison que... comment ça se passe exactement? Chaque fois qu'on va connecter des postes dans des bibliothèques qui adhèrent, on va nous payer les droits pour ces bibliothèques et on va refacturer les droits dans l'abonnement à la bibliothèque. Donc voici où nous en sommes aujourd'hui. On a commencé par les grandes bibliothèques municipales à vocation régionale qui avaient des départements musique, Toulouse, Montpellier, Marseille, vous les connaissez, les BMVR. Et puis ensuite, on s'est attaqué aux bibliothèques municipales de plus ou moins grande taille. Et maintenant, en fait, on a des demandes de la part des bibliothèques départementales qui connectent en fait un réseau de petites bibliothèques dans les zones rurales. Donc ça devient très intéressant puisque ces ressources arrivent aujourd'hui dans des bibliothèques de très petite taille qui n'ont pas forcément les moyens individuellement, mais qui les trouvent via les bibliothèques départementales. Donc on a une vingtaine de régions et je souligne quand même qu'on a réussi à connecter une bibliothèque en Guadeloupe et le pôle des musiques actuelles à La Réunion. C'est en cours. Je passe au portail des orchestres français. Donc là, on est sur un portail de musique symphonique, musique orchestrale. Donc pour nous, il s'agissait de créer une vitrine numérique, mais au niveau national, au niveau français, et de faire en sorte que les orchestres trouvent les moyens, via le plan de numérisation du ministère, de traiter leurs archives, puisque franchement la situation était catastrophique. Il y avait beaucoup de choses dans les armoires, sans inventaire, en train de dans un état de conservation critique. Donc il fallait vraiment très vite agir, mais ça n'est pas qu'un projet de conservation, c'est aussi un projet de diffusion sur les réseaux. Donc pour pouvoir créer un portail comme ça, alors on peut se dire mon objectif c'est de mettre en ligne les archives des orchestres, point. Mais il faut quand même trouver une perspective sur cet ensemble qui est un grand ensemble national avec des orchestres de toutes les régions. quel va être, si vous voulez, le point de vue éditorial de ce portail. Alors, on pourrait faire une liste d'archives, hein, mais on a préféré justement faire un petit peu mieux que ça. Donc, c'est pour nous, en fait, il s'agit de montrer quoi ? De montrer la vitalité des orchestres français au travers de leur programmation. Donc, il faut montrer ces programmations. Donc là, c'est l'idée de rassembler toutes les saisons musicales. Donc, en fait, ça va être le point de départ du portail. On va donner une image de tout l'événementiel des orchestres depuis le début, aussi loin qu'on peut remonter dans le temps. Donc on va essayer de mettre en ligne les saisons musicales, mais depuis les années 70 pour certains orchestres, hein, ou même plus tôt si on peut les retrouver. Et c'est à partir de cette base de données événementielle, donc qui regroupe les saisons musicales, qu'on va pouvoir écouter les archives. Donc on va peut-être passer... Non, je vais peut-être montrer avant comment ça se passe. Non, on va passer à la démonstration. Je crois que ça sera peut-être plus simple pour vous. Donc ce portail existe. Il rassemble aujourd'hui plus de quelques centaines d'archives, sons, vidéos et des notes de programme. Mais si vous allez dessus, vous, sur Internet, vous faites www.videsorchestres.fr, vous allez être très frustré parce que vous n'entendrez rien. Et pourquoi ? Parce que le dossier juridique est en cours. Alors là, je dirais une chose, c'est que si on avait attendu d'avoir les droits pour démarrer, on n'aurait jamais rien fait. Donc c'est peut-être un conseil que je vous donne, c'est surtout ne vous arrêtez pas aux problèmes juridiques, développez le maximum de choses sur les plans techniques, éditoriaux, tout ce que vous voulez. Menez le dossier juridique en parallèle, puisque de toute façon, il va être très long. Et puis, le jour où les droits sont là, on ouvre les robinets, mais tout est prêt. Il ne faut surtout pas faire l'inverse, sinon on ne fait rien. Et c'est le cas des orchestres. Vous voyez, aujourd'hui, on n'a toujours pas d'autorisation pour donner un minimum qui est les extraits de toutes ces musiques sur Internet. Mais le jour où ça viendra, on vous le dira. Et on a un grand espoir, puisqu'il y a eu des réunions entre l'Association française des orchestres et l'ASPIDIDAM très récemment. Et j'ai bon espoir que la chose réussisse d'ici peu de temps, se débloque.